Il est 16h, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Marc Beaudoin. Marc, on parle tout d'abord du vaccin AstraZeneca qui soulève des craintes dans la vallée de la Gatineau.
Une douzaine de pays, dont l'Allemagne, le Danemark et l'Irlande, interdisent le vaccin développé par AstraZeneca, alors que d'autres pays, comme la France, restreignent l'usage après que des caillots sanguins se soient formés chez des personnes ayant été vaccinées. Certaines personnes de la région craignent de se voir inoculées de ce vaccin, alors que d'autres comptent carrément refuser de le recevoir. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais tient à rassurer la population, mentionnant qu'il n'a pas été prouvé qu'il y a une cause à effet entre l'administration du vaccin d'AstraZeneca et le développement de caillots sanguins. On écoute la Dr Carole McConaughey, médecin conseil en maladies infectieuses à la Direction de la santé publique de l'Outaouais.
Effectivement, dans d'autres pays, il y a eu le retrait de la distribution du vaccin AstraZeneca par précaution. Alors, ça n'a pas encore été prouvé qu'il y a un lien causal entre le vaccin et la formation de caillots. C'est un vaccin qui a été quand même homologué par Santé Canada. Jamais la santé publique distribuerait ou administrerait un vaccin qui aurait une alerte, un avis d'alerte s'il y avait un danger. Mmh. Alors, moi, je veux rassurer les gens que c'est des vaccins qui sont sécuritaires.
Comme le vaccin contre la COVID-19 est administré sur une base volontaire, la population a le droit de refuser une dose produite par AstraZeneca. Cependant, les personnes qui refuseront un vaccin devront refaire le processus de rendez-vous.
Les gens peuvent attendre, effectivement, mais nous, on ne peut pas offrir ce service si tu veux à la carte de dire, ben, on va vous donner un rendez-vous quand ça sera le vaccin que vous voulez. C'est juste qu'on ne peut pas leur garantir quand ils vont pouvoir recevoir le vaccin.
Depuis le début de la vaccination de masse, le 6 de l'Outaouais vaccine environ 1500 personnes quotidiennement. Une cadence qui pourrait s'accélérer si l'organisation avait accès à davantage de doses.
On parle maintenant des travailleurs à la maison. Il y en a eu plus dans la dernière année, mais on a connu moins d'incendies résidentiels.
Alors que les services de sécurité incendie de Gatineau et de Montréal rapportent tous deux une augmentation des incendies résidentiels depuis le début de la pandémie, le portrait dressé par les services incendie de Gracefield et de Maniwaki est tout autre. Les deux services incendies rapportent une diminution drastique du nombre d'appels auxquels ils ont eu à répondre. Du côté de Maniwaki, les pompiers ont effectué un total de 9 sorties depuis le début de l'année, comparativement à 29 à pareille date l'an dernier. Le directeur du service incendie, Jason Campbell, commente.
De notre côté, au niveau des interventions pour l'année 2021, on a une chute du nombre d'appels qui est assez remarqué là, pour la même date l'année passée, on a quasiment 66% moins d'appels au niveau de 2020 à 2021. Donc, de notre côté, le télétravail donne des signes peut-être que c'est encourageant à ce niveau-là.
Pour sa part, le service incendie de Gracefield a effectué 6 sorties, alors que ce nombre avoisinait les 25 en 2020. Le chef pompier Michael Gainsford est aussi d'avis que le fait que davantage de travailleurs œuvrent à partir de leur domicile aide à réduire le nombre d'incendies.
On s'intéresse maintenant à l'abattoir de Ferme-Neuve qui désire rouvrir ses portes.
La coopérative de solidarité des éleveurs des Hautes-Laurentides tenterait de rouvrir l'abattoir de Ferme-Neuve qui a fermé ses portes en 2018. Une soirée d'information s'est tenue jeudi dernier pour inviter les producteurs des régions à proximité à s'inscrire en tant que membres à la coopérative. Annie Legault, présidente de la coopérative de solidarité des éleveurs des Hautes-Laurentides, explique que l'abattoir avait fermé ses portes en raison des contraintes au niveau des normes du ministère de l'Environnement.
C'est sûr que c'est pas moi qui étais là à ce moment-là, mais ce que j'ai compris de la situation, on répondait pas aux normes là, par rapport au système de traitement des eaux usées. On envisage un projet qui va coûter autour de 900 000 $ à 1 million de $.
Madame Legault affirme que son organisation est en recherche de financement pour combler les coûts des travaux. Toutefois, l'adhésion des membres sera primordiale au projet de réouverture.
On est en démarche pour obtenir des subventions, mais c'est sûr et certain que le projet ne peut pas être subventionné à 100% par les fonds publics. Là, il y a un maximum à respecter. Donc, si on veut que ça marche, effectivement, là, il va falloir avoir des fonds privés là, donc qui sont de la part des producteurs en tant que membres de soutien et membres utilisateurs. Là. Donc, il faut aller chercher autour de 100 à 200 000 $ là.
Si tout se déroule comme prévu, Annie Legault estime que l'abattoir pourra être en fonction dès le début de la prochaine année. Mentionnons que Patrick Sullivan, président de l'Union des producteurs agricoles de la vallée de la Gatineau, soulignait les problèmes des producteurs à subvenir à la demande des consommateurs en raison du manque d'usines d'abattage à proximité de la vallée de la Gatineau. Une offre supplémentaire comme celle que propose la coopérative réglerait cet enjeu.
On parle maintenant de cet homme dans la vingtaine qui est en attente de sa sentence pour agression sexuelle.
Un homme dans la jeune vingtaine est en attente de sa sentence après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle. L'événement s'est produit à Maniwaki dans la nuit du 14 au 15 juillet 2018 lors d'une soirée entre amis. Lors du procès du 15 octobre 2020, la version de l'accusé n'a pas été acceptée par le tribunal, qui a plutôt opté pour la version de la victime qui a pu être corroborée par un témoin et par des preuves matérielles. Celle-ci a affirmé avoir consommé un cocktail de drogue et d'alcool et avoir perdu connaissance et qu'elle n'était pas consentante à avoir un rapport sexuel avec l'accusé. La juge a conclu que le témoignage de la victime était crédible et a rendu un verdict de culpabilité envers le jeune homme. L'accusé, qui ne peut être identifié en raison d'une ordonnance de non-publication, devait obtenir sa sentence le 25 février dernier. Son dossier a finalement été remis au 22 avril.